Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu tome 1, livre print à écons et suppléments, est une œuvre hybride de Bernard Werber, publiée chez Albin Michel, qui rassemble des fragments encyclopédiques fictifs attribués au personnage d'Edmond Wells. Plus qu'un simple recueil, le livre se présente comme un objet littéraire expérimental où se mêlent science, philosophie, spiritualité, anecdotes insolites et questionnements sur la manière de transmettre le savoir. Sa force tient à son principe de lecture non linéaire qui rompt avec l'organisation habituelle d'une encyclopédie et privilégie la surprise, la juxtaposition et l'association d'idées. L'ouvrage s'inscrit dans l'univers de Werber en reprenant des éléments dispersés dans plusieurs de ses romans, puis en les réunissant dans une forme autonome. Il vise ainsi autant à divertir qu'à faire réfléchir sur la fragilité des certitudes, la frontière entre réel et fiction et la valeur relative des connaissances humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une encyclopédie fictive construite comme un objet littéraire expérimental. Le livre ne cherche pas à imiter une encyclopédie classique au sens strict. Il emprunte sa forme générale à l'encyclopédie, mais la détourne pour créer un dispositif narratif et intellectuel atypique. Les entrées ne suivent pas un classement alphabétique rigoureux, ni une progression pédagogique continue, ce qui modifie profondément l'expérience de lecture. Le lecteur passe d'un sujet à un autre par surprise, sans hiérarchie évidente entre un fait scientifique, une anecdote morale ou une réflexion métaphysique. Cette structure fragmentée est importante, car elle reflète l'idée centrale du titre « Le savoir n'est jamais totalement stable, complet ni absolu ». Bernard Werber transforme ainsi la consultation en exploration. Le livre se lit par fragments comme un réservoir d'idées, et cette forme sert le contenu en donnant au lecteur la possibilité de construire lui-même des correspondances entre les thèmes. Le procédé est littéraire autant qu'épistémologique, puisqu'il met en scène la manière dont on organise, retient et interprète l'information. Deuxièmement, Edmond Wells, comme voix fictive du savoir et figure de la curiosité, l'ensemble est présenté comme le résultat des recherches d'Edmond Wells, personnage récurrent de l'univers de Bernard Werber. Cette figure fictive donne une cohérence à des textes très divers en jouant le rôle d'auteur savant, curieux et paradoxal. Edmond Wells n'est pas seulement un prétexte narratif, il incarne une manière particulière d'aborder le monde, fondée sur l'étonnement, l'ouverture et le goût des rapprochements inattendus. Son statut de personnage imaginaire est essentiel, car il rappelle que le savoir proposé n'est pas une vérité officielle, mais une construction littéraire. Werber utilise cette mise en scène pour brouiller les frontières entre autorité scientifique et liberté de l'imagination. Le lecteur est alors amené à lire avec prudence, à distinguer les éléments plausibles des éléments inventés et à accepter que le doute fasse partie de l'apprentissage. Cette voix fictive permet aussi d'adopter un ton accessible, souvent ironique, qui rend la réflexion plus légère sans l'appauvrir. Edmond Wells devient ainsi une médiation entre érudition et curiosité populaire. Troisièmement, le mélange de science, de spiritualité et de curiosité insolite. Le contenu du livre repose sur un principe de variété extrême. On y trouve des passages liés à la physique, à la biologie, aux comportements animaux, à la psychologie, à des traditions culturelles, mais aussi à des récits étranges, à des hypothèses controversées ou à des idées proches de la fable. Cette coexistence n'est pas accidentelle, elle traduit la volonté de Werber d'explorer toutes les formes de connaissances disponibles, sans établir de séparation rigide entre disciplines savantes et sujets apparemment secondaires. Le lecteur rencontre ainsi des notions comme le centième singe, l'ekinsugi, la prophétie des Hopis ou la sexualité des beaux droits des abysses. Autant d'exemples qui illustrent l'attrait du livre pour les phénomènes marginaux ou surprenants. Cette diversité a une fonction précise, elle stimule l'attention en cassant les attentes de lecture. Elle montre aussi que le savoir humain est composite, incomplet et souvent réorganisé par le récit. En mêlant science dure, spiritualité et folklore, l'ouvrage crée un espace où la connaissance devient un objet de circulation plutôt qu'un bloc fermé. Quatrièmement, une réflexion sur la vérification des informations et la frontière entre réel et fiction. L'ouvrage prend tout son intérêt dans sa façon d'interroger la crédibilité du savoir. En intégrant des éléments réels, des interprétations contestées et des inventions, Bernard Werber force le lecteur à exercer son esprit critique. Le livre ne se contente pas de transmettre des curiosités. Il met en scène une difficulté essentielle de toute lecture moderne, à savoir la nécessité de vérifier ce qu'est l'on lit. Cette dimension est particulièrement actuelle, car elle anticipe les préoccupations liées aux fausses informations et à la circulation rapide de contenus non vérifiés. Le texte fonctionne alors comme un exercice de discernement. Le lecteur est invité à se demander d'où vient une idée, si elle repose sur une observation, une croyance ou une fiction, et pourquoi certaines versions du monde nous semblent plus crédibles que d'autres. L'intérêt du livre ne réside donc pas seulement dans les données qu'il donne, mais dans l'attitude intellectuelle qu'il encourage. il apprend à ne pas confondre accumulation d'informations et vérité, ce qui constitue l'un de ses apports les plus durables. En dernier lieu, un recueil destiné aux lecteurs curieux qui aiment apprendre autrement. Ce livre s'adresse moins à un lecteur cherchant une encyclopédie pratique qu'à un lecteur attiré par les idées décalées et la réflexion en éventail. Il convient à ceux qui aiment les ouvrages fragmentaires, les recueils d'aphorismes, les essais hybrides et les livres qui ouvrent des pistes sans imposer une conclusion unique. Son principal intérêt est de rendre l'apprentissage ludique sans le réduire à un simple divertissement. Chaque entrée peut être lue indépendamment, ce qui permet une consultation libre, mais l'ensemble produit aussi une vision cohérente de la curiosité comme méthode. L'ouvrage se distingue des encyclopédies réelles par son absence de neutralité stricte et des recueils de nouvelles par son ancrage dans la transmission de connaissances. Cette position intermédiaire explique sa singularité dans la bibliographie de Werber comme dans le paysage éditorial. Il offre une lecture stimulante pour ceux qui apprécient les idées qui dérangent les habitudes de pensée, les rapprochements inattendus et les livres qui servent davantage à élargir l'esprit qu'à fournir un savoir clos et définitif. En conclusion, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, tome 1, livre 1 à E11 et supplément mérite d'être lu par les amateurs de Bernard Werber, par les lecteurs curieux de format littéraire inhabituel et par tous ceux qui aiment les ouvrages à la frontière de l'essai, de la fiction et de la vulgarisation détournée. Son intérêt principal est moins de livrer une somme de connaissances fiables au sens académique que d'amener le lecteur à questionner sa manière de savoir, de classerait de croire. Le livre peut également intéresser ceux qui cherchent une lecture discontinue, facile à reprendre par fragments, mais riche en idées à relier entre elles. Ce qui le distingue d'autres recueils d'anecdotes ou d'essais populaires, c'est son ancrage dans un univers fictionnel cohérent, porté par la figure d'Edmond Wells, et son usage constant du paradoxe comme moteur intellectuel. Il ne se contente pas d'informer, il met en scène le désordre fécond du savoir humain. C'est cette tension entre sérieux et invention, entre curiosité et doute, qui fait sa singularité durable. Si vous souhaitez soutenir Bernard Werber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.